Il est 6h.
L'économie française redémarre déjà. On le voit dans les chiffres de consommation, qu'il y a eu un effet boost du redémarrage.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'en félicite. Il n'y a pas eu de casse sociale dans les entreprises après le dernier confinement. Nouvelle étape mercredi avec la réouverture de l'intérieur des restaurants. Dans ce journal, le retour à Strasbourg des sessions du Parlement européen après plus d'un an d'interruption. L'inquiétude de Marine Le Pen face à l'éventuelle candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle de 2022. Et puis à défaut d'album, vos stars préférées publient leur biographie, un moyen de s'ouvrir davantage à leur public.
À suivre, le journal des sports de Cédric Chasseur et puis mon invité inattendu, artiste aux mille facettes et fan absolu de tennis, il ne manquera rien de la dernière semaine de Roland Garros. Restez à l'écoute, ce sera à 6h20.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
J-2 avant une nouvelle étape du déconfinement en France. Mercredi, les restaurants et les bars pourront rouvrir en intérieur et le couvre-feu passera à 23h. Une étape de plus vers un retour à la vie normale et qui marque le coup d'envoi de la reprise économique. Économie qui repart déjà fort, constatait hier Bruno Le Maire sur notre antenne.
L'économie française redémarre déjà. On le voit dans les chiffres de consommation. Ils étaient dans la première semaine 20% supérieur à la même période de 2019. Il y a eu un effet boost du redémarrage. Aujourd'hui, dans la semaine du 24 au 30 mai, les dépenses par carte bleue sont supérieures de 15% à ce qu'elles étaient dans la période 2019. Nous voulons que la nation française travaille. Et d'ailleurs, les Français en ont envie. Les restaurateurs en ont envie. Les hôteliers en ont envie. Ils veulent retrouver le travail. Moi, je ne connais pas de restaurateur ou d'hôtelier qui aime vivre des aides. Ils aiment vivre de leur travail. Donc nous allons retirer progressivement les aides pour inciter au retour à l'activité. Et pourquoi je suis confiant sur le fait qu'il y aura peu de faillites ou que nous arriverons à les maîtriser ? Il y en aura bien entendu, parce que nous avons mis en place des dispositifs d'accompagnement des secteurs les plus fragilisés qui doivent nous permettre d'éviter cette vague de faillite.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, invité hier du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, a noté que la France reste le pays le plus attractif d'Europe sur le plan économique selon le bilan annuel du baromètre EY.
Son retour était réclamé par de nombreux élus alsaciens. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à jeudi, le Parlement européen revient à Strasbourg.
Après un an de dépaysement, d'après les traités de l'Union européenne, les sessions sont censées se tenir dans la capitale alsacienne, mais depuis le début de la pandémie, elles avaient été délocalisées à Bruxelles. Un retour à la règle donc qui rassure les Strasbourgeois et particulièrement les acteurs économiques qui dépendent du Parlement. Arthur Mbaché.
Ça frémit dans le logiciel de réservation de Pierre Siegel du 4 étoiles Monopole Métropole, près de la gare ici à Strasbourg. En temps normal, les sessions parlementaires, c'est 15% de son chiffre d'affaires annuel. Après presque un an et demi d'absence, les eurodéputés sont de retour. Enfin, des eurodéputés sont de retour.
Il y a deux choses. Il y a, youpi, les parlementaires reviennent parce qu'il était urgent que le Parlement européen retrouve sa maison. Maintenant, dans le sens où c'est une version hybride, on sait que voilà, il y a beaucoup de gens qui vont rester soit chez eux, soit à Bruxelles. Et donc, habituellement, il y a à peu près 4000 personnes qui se déplacent pour une session. Là, s'il y a 1000 personnes, je pense que ça sera le bout du monde.
Jeanne Barseguian est la maire écologiste de Strasbourg.
C'est du soulagement. La majorité des députés européens, le premier, le président David Sassoli, ils nous disent être heureux de rentrer à la maison. C'est aussi le fait de dire qu'on ne veut pas centraliser, concentrer tous les pouvoirs au même endroit, mais qu'au contraire, une Europe riche et la plus inclusive possible, c'est une Europe qui partage le pouvoir.
En arrivant ici tout à l'heure, les députés vont découvrir les nouveaux abords du Parlement européen. En un an et demi, des immeubles ont poussé. Ils sont à disposition de l'institution. Ça fait partie de la stratégie de la ville pour consolider sa dimension européenne. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
6h04, la politique en France à présent. Sa candidature affaiblirait le camp national. Les mots de Marine Le Pen qui s'inquiète de la possible participation d'Éric Zemmour à la présidentielle de 2022.
Mais les spéculations se multiplient. Le principal intéressé, la lui-même évoqué hier soir sur YouTube, il faut passer à l'action parce que la prévision, la prédiction même, la prophétie ne suffit pas selon lui.
Je fais de plus en plus de propositions, je pense de plus en plus à comment mettre en application ce que je dis. Je pense tout simplement que ce qui manque à notre classe politique, c'est le diagnostic. Ils font des propositions dans le vide. Ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. De Marine Le Pen à Emmanuel Macron, ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ils ont tous maintenant compris que la sécurité allait être au centre de la présidentielle. Donc ils font tous des propositions sur la sécurité. Très bien. Mais le sujet, ce n'est pas la sécurité. La sécurité est un problème parce que nous vivons un changement de peuple. et une guerre de civilisation sur notre sol.
Une guerre de civilisation sur notre sol, disait donc hier soir sur sa chaîne YouTube Éric Zemmour.
La politique toujours avec la victoire de la ministre La République En Marche, Brigitte Bourguignon, lors d'une législative partielle dans le Pas-de-Calais hier. Plus de 62% des voix devançant largement le Rassemblement National. À l'étranger, le chef de Boko Haram serait mort selon le groupe djihadiste rival de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Il se serait donné la mort lors de combats en mai dernier en déclenchant un explosif. Et puis au Pakistan, un accident de train a fait au moins 25 morts et des dizaines de blessés ce matin. Il aurait déraillé avant d'être percuté par un autre train.
Europe 1. À 6h05, vous restez avec nous dans quelques instants. Connaissez-vous vraiment vos chanteurs favoris? Pour vous aider, certains se livrent à vous en publiant leur biographie. Elles sont en plein boom. On en parle juste après cette pause. A tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
6h08, la suite du journal Sophie Hachène.
Michel Sardou, Ophélie Winter et dernièrement David Guetta, pour ne citer que, ils viennent de publier leur biographie. Alors, est-ce que c'est réellement à destination de leur public ou bien de leur maison d'édition? La réponse avec Angèle Châtelier.
Le chanteur Yves Duteil a publié son autobiographie il y a un mois, appelée « Chemin de liberté ». Et dedans, il y a des choses qu'il n'a jamais dites dans ses chansons. Un véritable cadeau pour son public curieux.
Le but, c'était plus de mettre en perspective les chansons et notre vie. Il fallait trouver en fait une logique, la rencontre avec Brassens, l'amitié avec Véronique Sanson. Là, je pense que j'avais envie de faire quelque chose de plus personnel, de plus sensible, je dirais.
Et ça marche. En un mois, il en a vendu 10 000 exemplaires. Un très beau démarrage. Pareil pour William Scheller, qui vient lui aussi de sortir sa biographie. Mais là, ce sont les artistes eux-mêmes qui se racontent. D'autres font appel à des auteurs, comme Alain Vaudrasca, qui a écrit celle de France Gall, de Claude Nougaro, de Francis Cabrel, récemment du rappeur Aurel. Et parfois, il ne rencontre même pas l'artiste. C'est ce qu'on appelle une biographie non officielle. Et pour lui, ce n'est pas un sacrilège, c'est au contraire un travail d'enquête.
Les biographies non officielles, je les conseille aux lecteurs parce que ce sont les plus proches de la vérité. Et les biographies officielles, on vous demande d'écrire le destin de héros. Hein. Les artistes se racontent plus, mais racontent leur propre légende qu'ils arrangent à leur sauce, en fait.
Et pour parfois, dit-il, ne pas être oublié et relancer la machine.
Angèle Châtelier. Et puis Lilibet Diana Mountbatten Windsor.
Un prénom bien choisi.
Un double prénom évidemment évocateur pour la fille du prince Harry et Meghan Markle. Ils ont annoncé sa naissance hier. La reine Elisabeth II et la famille royale se disent évidemment ravis de cette nouvelle venue.
Merci, c'était le journal de Sophie Hachène. Il est presque 6h10. L'heure de passer au sport avec vous, Cédric Chasseur. On démarre avec le foot et l'Euro qui débute dans 4 jours maintenant.
L'heure est encore à la préparation. Les Bleus affronteront demain soir la Bulgarie au Stade de France. Des Français favoris aux yeux d'Arsène Wenger, l'ancien manager d'Arsenal, a expliqué pourquoi au micro de Cyril de la Morinerie.
Bah, je la vois comme super favorite, donc c'est quelque chose qu'il faudra assumer, qui n'est pas évident, mais bon... Je nous vois un peu dans la peau de 2000, quoi. Ouais. Où après avoir été champion du monde, on a une équipe qui est en pleine confiance et qui en plus a un potentiel offensif extraordinaire. Donc je suis très optimiste. Quand on n'est pas entraîneur soi-même, c'est facile d'être optimiste. Il faudra garder l'état d'esprit qu'on avait en Russie et jouer sur la solidarité, ça va être très important aussi.
Arsène Wenger interrogé à l'occasion de l'inauguration d'un stade portant le nom du général de Gaulle à Colombey, les deux églises.
Et notez deux rendez-vous ce matin sur Europe 1. D'abord, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, sera l'invité du tête-à-tête Europe matin à 7h40. Et le premier journal de l'Euro, c'est aujourd'hui avec Jean-François Pérès, le chef du service des sports, à 8h30. En tennis, Cédric Chasseur, suite des huitièmes de finale à Roland-Garros aujourd'hui.
Au programme notamment Djokovic et Nadal chez les hommes, Goffin, Kenin et Fiatek chez les femmes. Pat Federer en revanche qui a déclaré forfait. Inutile non plus de vous rappeler qu'il n'y a plus de Français
non,
dans le tableau principal. Il y en a en revanche chez les juniors et un joueur attire notamment l'attention, Arthur Fils, 16 ans. Il a passé sans encombre le premier tour hier et assume ses ambitions.
Ce junior-là, je vais essayer de le gagner. Ça va être très compliqué, mais après, j'ai le jeu pour, j'ai les capacités pour. Je suis joué il y a 2 semaines les qualifications du Grand Chelem, là. Donc ça s'est plutôt bien passé. Du coup, mon niveau de jeu, je suis vraiment content parce que je ne pensais pas que j'étais capable de jouer comme ça. Je sais que j'ai beaucoup de potentiel, mais je ne pensais pas être capable de jouer maintenant comme ça. Après, il y a beaucoup de choses à travailler encore, mais je suis sur une bonne courbe de progression.
Arthur Fils au micro d'Axel May. Et pour tout savoir de Roland-Garros, rendez-vous avec Corinne Boulou à 8h pour le journal de Roland-Garros.
Et Europe 1 Radio Partenaire. Merci beaucoup Cédric Chasseur.
Europe 1.
Il n'y a pas de Français, vous le disiez, en deuxième semaine à Roland-Garros, mais on continue de suivre avec passion le tournoi Porte d'Auteuil avec mon invité inattendu ce matin. Bonjour.
Bonjour, c'est Charles-Élie Couture avec vous.
Bienvenue sur Europe 1, Charles-Élie Couture, chanteur, compositeur, je ne vous présente plus. Vous êtes également peintre, photographe et amoureux de tennis, donc vous y avez même consacré un très beau livre de dessin intitulé justement « Beaux gestes » il y a quelques années. On revient sur cette passion qui vous anime dans quelques secondes. À tout de suite.
Théo Manval sur Europe 1.
Quand le vent se lève, quand la terre souffre tant.
Bon invité inattendu ce matin a donc la passion du tennis chevillée au corps, presque autant que celle de la musique, on l'entend, de la sculpture et du dessin. Et pourtant, Charles-Élie Couture, le tennis, c'est un sport que vous avez découvert sur le tard.
Oui, oui, j'avais 30 ans. En fait, je jouais pas mal au ping-pong, au tennis de table. Et puis un jour, j'étais en tournée avec mes musiciens et je regardais un reportage, je m'en souviens, sur l'écroulement du mur de Berlin. Et les musiciens m'ont dit « Écoute, viens nous rejoindre, il y a un terrain de tennis attenant à l'hôtel ». Alors, je n'étais pas trop chaud, je les regarde jouer, puis je me dis « Ils jouent comme des mules ». Donc,
finalement,
je peux me joindre à eux. Je les ai rejoints. Et alors là, ça a été le coup de foudre,
instantané.
En fait. Quasiment. Une fois que j'ai eu ça dans la main, je me suis dit, mais c'est super. C'est... Et quand le régisseur est venu nous chercher pour aller faire la balance et partir au concert, j'ai dit, ah, déjà ? Ah ben non, non.
Vous vouliez plus alors, rentrer.
Et du coup, j'ai dit, à partir de maintenant, les hôtels qu'on choisit, on va les prendre avec des cours de tennis.
Et donc, cette passion pour le tennis a nourri aussi au fil du temps votre création artistique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de dessiner ces corps, ces silhouettes très élancées, très poétiques ?
Ah, c'est très simple, je m'étais tordu la patte et en fait je souffrais de ne pas pouvoir jouer parce que je m'étais fait une méchante entorse. Et du coup j'ai continué à jouer en dessinant ces athlètes, en essayant de faire comprendre que quand on parle de la beauté du geste, c'est en fait parce que le geste est pur et parfait.
Ça a donné justement le livre « Beaux gestes », donc au pluriel, paru en 99. Avec une esthétique très épurée et en même temps très dynamique. Je crois que c'est le mouvement qui vous plaît.
Mais c'est surtout qu'effectivement, on se sent grandi quand on a réussi un beau coup. Ce que j'essayais de transmettre dans le dessin, c'était justement cette espèce de souffle qu'on trouve, nous, amateurs, de temps en temps et que Federer réussit trois fois dans un même jeu. Quoi.
Votre création artistique influencée donc par le sport, vous dites aussi, j'ai lu en préparant cet entretien, que les sportifs, à leur manière, sont des artistes.
Oui, parce que les sportifs, comme les artistes, n'ont de sens que dans l'extrême. C'est-à-dire qu'un sportif qui se retient, on vient de le voir avec les Français d'ailleurs, qui à un moment donné se sont trouvés envahis par leurs devoirs, parce qu'ils voulaient trop bien faire, parce que si, parce que ça. Quand un sportif est subjugué par sa propre émotion, il se perd et il se retient au lieu de se lâcher. Et pour se lâcher, il faut accepter une espèce d'abandon comme ça. Et bien c'est la même chose dans le domaine de l'art. Si on veut garder les choses d'une manière raisonnée, raisonnable, on fait des choses, pas ennuyeuses, mais classiques, entendues, et qui n'ont pas le même pouvoir de surprise.
Est-ce que le tennis d'aujourd'hui, avec ses légendes, vous parliez tout à l'heure de Roger Federer, Nadal, Djokovic, est-ce que ce tennis-là vous plaît autant que celui dont vous êtes tombé amoureux il y a quelques dizaines d'années ?
Ah, il me plaît plus, parce qu'il y a beaucoup moins de fautes. Les mecs sont à un niveau absolument surhumain. Ils ont une maîtrise d'eux-mêmes faramineuse. Alors, c'est vrai qu'il y a moins le côté, quelquefois, spectaculaire hors cours. Même si on a vécu l'autre jour avec un Federer totalement inattendu.
Oui, le juge de chaise.
Qui, à l'ancienne, j'allais dire...
Contestait le fait d'avoir été averti parce qu'il était trop lent.
Mais il avait raison de contester, c'était absurde, c'était honteux. Mais disons que ça, on n'est plus tellement habitué à ça dans un lycée policé, où les avertissements tombent comme des amendes à n'en plus finir. Mais en même temps, les esclandres de McEnroe en ont fait chier plus d'un et ont quelquefois créé des sacrément mauvais esprits sur les cours.
C'était une certaine époque. Merci beaucoup, Charles-Élie Couture, d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu ce matin et d'être venu donc nous parler de votre passion pour le tennis. Vous serez de retour sur scène le 30 septembre, salle Gaveau à Paris, si tout va bien. Et vous exposez en ce moment aussi...
Il n'y a pas si tout va bien, ça va aller bien.
Vos peintures, vos sculptures, vos photographies, ça c'est en ce moment à Douai, dans le Nord, et à Saint-Palais-sur-Mer, en Charente-Maritime. Merci beaucoup.
Volontiers, merci de m'avoir invité. Salut.
Europe 1. Théo Manval.
Bientôt 6h20, l'essentiel à retenir ce matin, la PMA pour toutes, de retour à l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est la mesure phare du projet de loi bioéthique. La majorité espère une adoption du texte avant l'été. Jean-Yves Le Drian se rendra au Burkina Faso cette semaine, après le massacre de 160 personnes, dont une vingtaine d'enfants, dans un village en fin de semaine dernière. C'est l'attaque la plus meurtrière dans le pays depuis 6 ans. Plus de peur que de mal pour la vice-présidente américaine Kamala Harris. Son avion en partance pour le Guatemala a dû faire demi-tour hier à cause d'un problème technique. Elle a finalement pu décoller à bord d'un autre appareil peu de temps après. Et puis fin de parcours pour deux légendes à Roland-Garros. Roger Federer déclare forfait pour son 8e de finale et Serena Williams sortie en 2-7 hier soir.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui.
Votre 5-7 se poursuit en musique avec Joe Dassin ce matin dans la partition d'Amblin Roche. Dans quelques jours, à tout de suite.
Europe 1.
6h23 sur Europe 1, la partition d'Amblin Roche, l'histoire cachée derrière un artiste, une chanson, un disque. Et retour en 1969, aujourd'hui, 5 ans après avoir été le premier Français à signer avec une maison de disques américaine, le label CBS, Joe Dassin est au sommet des hit parades. Et c'est à ce moment-là que son cœur se met à faire des siennes.
À 30 ans, ma vie est foutue, dit-il à son épouse Maryse Massiera, au moment où tout commençait à bien marcher. C'est un infarctus, le 1er avril 69, et le premier d'une longue série. Un mois plus tard, enfin rétabli, Joe Dassin peut poursuivre l'enregistrement de son nouvel album.
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue.
À peine le temps d'être remis sur pied, Amblin, en plus de préparer son disque, Joe Dassin retourne dans l'arène du show business.
En patte d'eff et rouflaquette, il fait le tour des télés dans son nouveau costume de scène, un costume blanc, bientôt célèbre. Il ne le quittera plus sur les conseils de Jacqueline, la femme et productrice d'Henri Salvador. Le blanc, ça attire la lumière et Joe Dassin, sous les feux des projecteurs, est la nouvelle vedette du répertoire français.
Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe.
Pour asseoir son statut de vedette, il faut des tubes.
Et malgré ce qu'on pourrait croire, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Son ami et producteur Jacques Play le raconte dans le livre qu'il a écrit avec Maryse Massiera, Joe Dassin, inconnu et fascinant. Il va, je le cite, à la pêche au tube.
Tiens donc.
Et pour cela, il enregistre sur bande une émission sur le hit parade anglo-saxon diffusé le dimanche sur la BBC. Un lundi suivant, il fait écouter Waterloo Road du groupe Jason Crest à Joe Dassin.
Down Waterloo Road. Down Waterloo Road.
Ça dit quelque chose, ça, non? Waterloo Road à Londres. Finalement, comme les Champs-Élysées à Paris.
Et c'est exactement cette réflexion qu'ont tout de suite Jacques Play et Joe Dassin. Le chanteur travaille sur les arrangements et c'est Pierre Delanoë qui s'occupe d'adapter les paroles en français. Comme pour le début de la chanson anglaise, Joe Dassin souhaite qu'on enregistre les bruits des passants, des voitures, les bruits de la rue. Le résultat est décevant, il est contraint d'abandonner l'idée.
Mais le disque est enfin terminé avec ses 12 chansons. Le 33 Tours sort le 7 juin 1969.
La chanson Les Champs-Élysées rencontre un succès sans précédent pour Joe Dassin. Le tube se retrouve dans le hit parade néerlandais pendant 7 semaines.
D'accord.
À Moscou, la chanson arrive devant les Beatles. Au Japon, l'ambassade de France se sert de la chanson pour assurer la promotion du pays. Joe Dassin enregistre les Champs-Élysées en anglais, en chinois et en allemand lors de l'été, l'automne 1969. Au moment où son nom s'affiche en lettres rouges sur le fronton de l'Olympia, Joe Dassin part à la conquête du marché germanique.
Da sah ich dich vorübergehen, sagte Bonjour. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt Manet. Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nun. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, oh.
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Joe Dassin et son emblématique Champs-Élysées, formidable produit d'exportation, donc traduit en plusieurs langues.
En France, il pique la première place à Johnny Hallyday au référendum du journal Salut les copains. Autant vous dire que c'était un sacré succès. Ouais. Les Champs-Élysées, c'est aussi l'album de Joe Dassin sorti le 7 juin 1969.
L'histoire cachée derrière une chanson, un album, un artiste, la partition d'Omblin Roche tous les matins juste avant 6h30. Merci Omblin, à demain. Et la météo, Laurent Cabrol.
C'est vrai que cette chanson, elle nous fait...
Elle nous donne du
chaud au cœur, ouais. Le soleil est là. Alors, on parle des Champs-Élysées, mes chers amis. Dans votre ville, où que vous soyez, à Marseille, à Lyon, à Strasbourg, à Colmar ou à Cambrai, vous avez forcément un Champs-Élysées ou des Champs-Élysées de ces rues qui font bon, qu'il est bon de fréquenter. Alors, profitez-en aujourd'hui, vous allez vous régaler avec quand même une nuance un petit peu moins drôle pour ceux d'entre vous qui habitent la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, la Bourgogne, l'Auvergne, les Cévennes et la vallée du Rhône. Je ne veux pas dire qu'il va faire mauvais, je veux simplement dire que le temps sera lourd, pesant et qu'il nous aurons dans ces contrées eh bien, un temps orageux qui va éclater sous forme d'averses, sous forme parfois d'averses un peu violentes, mais enfin ce sera dans l'après-midi et ce matin c'est calme dans ces contrées. Sur la Manche, nous avons des brouillards, bon les brouillards vont pas trop tenir, hein. Ils vont s'en aller, j'en vois, vers le Touquet, Deauville, Caen, Cherbourg, Le Havre, et puis partout ailleurs, donc sur Paris, sur la Vallée de la Loire, le Poitou-Charentes, le Sud-Ouest, enfin bref, surtout on peut dire les deux tiers de la France, ce sera un temps ensoleillé et chaud avec des températures de 21 à 27 degrés. L'on fera 26 dans la capitale, 25 à Bourges et à Lyon et 22 degrés à Épinal.
Merci Laurent, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Lundi 7 juin, bon réveil, un nouveau journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour.
Il est 6h30.
Le Rassemblement National s'installe de plus en plus. Moi, je suis dans un département, une région, dans laquelle j'ai pas du tout envie que ça continue.
La ministre Brigitte Bourguignon, réélue députée du Pas-de-Calais, mais elle s'inquiète de la progression du RN. Une législative partielle où 3 électeurs sur 4 ne sont pas allés voter. Comment se passe la vaccination des personnes sans abri? Ils sont 300 000 à qui on permet progressivement de recevoir une injection directement en centre d'hébergement. Et puis Michel Platini, au micro d'Europe 1, son regard sur les Bleus d'aujourd'hui, à 8 jours de leur match face à l'Allemagne.
Juste après ce journal, la PMA pour toutes, de retour devant les députés, adoption définitive en vue. Après 2 ans de débats et 10 ans de promesses, l'ancienne ministre des Familles sous François Hollande, Laurence Rossignol, est mon invitée à 6h40. Très bon réveil, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
2 enseignements à tirer des élections législatives partielles d'hier, une participation dérisoire et la victoire de tous les favoris annoncés. La socialiste Lamia El-Haraj à Paris, le neveu d'Olivier Dassault, Victor Habert Dassault dans l'Oise, Sophie Métadier en Indre-et-Loire de la droite et du centre, et puis une membre du gouvernement qui était obligée de remettre en jeu son mandat de députée.
Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie, est reconduite dans le Pas-de-Calais avec 62% des suffrages. Maximilien Carlier.
La victoire est nette, mais pas de fête hier soir. Non, insiste la ministre, elle s'inquiète surtout du score encore élevé du RN.
Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que les partis traditionnels n'ont toujours pas compris que le Rassemblement national s'installe de plus en plus. Moi, je suis dans un département, une région, dans laquelle j'ai pas du tout envie que ça continue. Je crois qu'on devrait tous se battre ensemble, parfois.
Et faire barrage aux partis frontistes, c'est justement l'appel qu'avait lancé Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, un appel dénoncé par la candidate RN perdante, Marie-Christine Bourgeois.
Il a été le premier pendant tout le mandat régional à tacler M. Macron. Et puis finalement, au bout du compte, il est quand même macroniste. Hein. C'est toujours difficile quand on est tous contre nous de pouvoir réussir à gagner.
Et la grande gagnante, en revanche, de ce scrutin, c'est bien l'abstention. À peine plus d'un électeur sur cinq a voté. Dans le Pas-de-Calais, Maximilien Carlier, Europe.
La démocratie au Mexique avec ses élections législatives et locales mauvaises pour la majorité au pouvoir hier. Des élections frappées par la violence meurtrière. 5 responsables d'un bureau de vote ont été assassinés depuis le mois de septembre. 89 hommes politiques ont été tués dans le pays. Jean-Yves Le Drian, lui, se rendra cette semaine au Burkina Faso qui a connu la pire attaque djihadiste depuis 2015 avec 160 morts. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Le ministre des Affaires étrangères viendra exprimer la solidarité de la France.
6h33 sur Europe 1, c'est un public particulièrement vulnérable qui fait face au Covid. Les sans domicile fixe sont vaccinés peu à peu aussi.
Et ils sont 300 000 en France, qu'ils vivent dans la rue ou en centre d'accueil. Depuis un mois, l'association Aurore transforme une partie de son site du 14e arrondissement de Paris en centre de vaccination. Reportage de Nicolas Feldman.
Franchement, j'ai peur.
Vous avez peur?
Oui, j'ai peur du vaccin.
Gigi fixe de ses grands yeux clairs les seringues derrière le paravent. 14 années à la rue, faites de drogue, de squat. Aujourd'hui, il a retrouvé une place dans un centre ainsi que son sourire. C'est finalement le Covid, très présent autour de lui, qui le pousse à se faire vacciner.
On regarde les gens, comment ils sont partis, les copains, les copines. Tu dis, attends, il faut que je vaccine, moi. Pour moi et pour les autres.
Quel âge avez-vous, monsieur?
56.
Donc, vous pouvez avoir le vaccin Janssen, et ça veut dire que vous aurez une seule piqûre.
C'est la première et la dernière.
Allez, hop,
c'est bon ?
Une seule dose, Janssen, un vaccin précieux pour ce public éloigné du système de santé, mais un vaccin pour le moment uniquement réservé aux plus de 55 ans. Florian Guyot, directeur de l'association Aurore.
Le Janssen, on n'a pas la complexité de devoir adresser la deuxième injection. Mais l'espérance de vie d'une personne à la rue, elle est de 20 ans à 30 ans inférieure à la moyenne générale. Donc pour les personnes plus jeunes, donc qui sont éligibles au Pfizer, nous faisons signer un formulaire qui nous permettra de rappeler au référent social de la personne qu'il est temps de revenir pour la seconde dose.
Sur son ordinateur, un médecin fait le bilan de la journée. 36 personnes vaccinées. Il commandera pour mardi prochain une cinquantaine de doses.
On se souvient de l'affaire Air Cocaine, ce jet privé français stoppé en 2013 à Punta Cana, en République dominicaine, avec la découverte de 700 kilos de drogue dans ses soutes.
Et on se souvient de l'évasion spectaculaire des deux pilotes qu'un commando privé avait fait rentrer en France. Leur procès en appel devant la cour d'assises spéciale d'Aix-en-Provence commence aujourd'hui. Justin Morin, avec toujours la même question, était-il au courant ?
Oui, Bruno Audos et Pascal Fauré ont toujours clamé leur innocence et juré qu'ils ne savaient rien. Aujourd'hui, ils se présenteront à nouveau devant les juges sans changer de version. Il y a 2 ans, les magistrats ont estimé que les deux pilotes avaient sciemment participé au trafic de drogue. 26 valises, cabossées, anormalement lourdes, dans un jet privé, cela interroge. Ils ne pouvaient pas ne pas savoir. Les juges ont aussi pris en compte les éléments d'un premier vol, effectué 3 mois avant leur arrestation, un vol identique entre la République dominicaine et Saint-Tropez, à bord duquel ils avaient déjà transporté des valises boueuses et cabossé, une cargaison suspecte qui avait même été signalée par un témoin aux autorités françaises. Sauf que l'enquête n'a jamais réussi à prouver qu'il s'agissait de drogue. Maître Antoine Vey, l'avocat des deux pilotes, continue d'affirmer que ça ne peut pas constituer une preuve.
Non seulement il incombe pas aux pilotes de contrôler le contenu d'éventuels bagages dans leurs aéronefs, mais également qu'en ce qui les concerne, ce sont des gens stables qui sont des militaires plusieurs fois décorés et l'idée même qu'ils puissent avoir pris part à une quelconque activité criminelle leur est insupportable.
Le commanditaire présumé sera aussi rejugé. Il a été condamné à 18 ans de prison, mais il continue de clamer son innocence.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. Un petit événement hier à Colombelles-les-Deux-Églises, le tout premier stade en France baptisé du nom du général de Gaulle. Il n'y en avait pas jusqu'à présent. Pour l'occasion, Arsène Wenger, Lisa Razou, Carambeu, Laurent Blanc ont joué contre le club de Colombey et Michel Platini a répondu au micro Europe 1 de Cyril de la Morinerie, notamment sur cette équipe de France de 2021 à quelques jours du début de l'Euro.
Ils ont une équipe très complète, certainement la plus complète de toutes, plus de grandes individualités. Ça ne va pas être simple, c'est pas sûr qu'ils le gagnent, il faut que les planètes soient alignées. Mais ils ont les moyens de le gagner parce qu'ils ont les qualités pour le gagner.
Est-ce que le retour de Karim Benzema, selon vous, est une bonne chose?
C'est pas l'AS Colombey, les deux églises, quoi, Benzema. Donc c'est un très 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 grand joueur. Après, il faut que Didier trouve le juste équilibre. C'est un équilibre, c'est un puzzle. J'ai été sélectionneur. C'est pas parce que vous mettez une succession de grands joueurs que vous allez gagner. Regardez Aimé Jacquet, ce qu'il a fait en 98. Il n'a pas sélectionné les joueurs les plus stars du moment.
Michel Platini, et on entendra Didier Deschamps tout à l'heure, le sélectionneur des Bleus et l'invité exceptionnel d'Europe 1 ce matin à 7h40.
À ne pas manquer en effet, merci. C'était le journal de François Geffrier. Il est 6h37.
Europe 1.
L'heure d'accueillir l'invité de ce 5-7. Bonjour Laurence Rossignol.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, sénatrice socialiste de l'Oise, ancienne ministre des Familles sous François Hollande, qui avait fait, comme son successeur Emmanuel Macron, une promesse de campagne de ce texte qui revient à l'Assemblée en séance plénière aujourd'hui. La PMA pour toutes les femmes en passe d'être adoptée définitivement après 2 ans de débat. On en parle avec vous dans quelques secondes. À tout de suite.
Théo Manval sur Europe 1.
L'ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, est donc avec nous ce matin. Je le disais, le projet de loi bioéthique revient devant l'Assemblée nationale aujourd'hui avec sa mesure phare, la procréation médicalement assistée ouverte à toutes les femmes, lesbiennes et célibataires comprises. Elle devrait être adoptée définitivement cette semaine, cette mesure, après presque 2 ans de navette au Parlement. Vous vous dites, enfin, il était temps ?
Oui, enfin, il était temps. Comme vous dites exactement, c'est probablement le texte qui aura été le plus long dans son adoption de tout ce quinquennat. Il a été démarré tardivement. Il ne faut pas oublier que la PMA pour toutes a été ajoutée au texte bioéthique. Tous les 7 ans, il faut réviser les lois bioéthiques, c'est une obligation légale. Mais le gouvernement avait un autre choix, qui était celui de faire adopter, dès le début du quinquennat, une loi courte sur la PMA et les conditions de filiation. En installant la PMA dans la bioéthique, c'était à coup sûr la garantie de retarder l'adoption du texte.
D'autant c'était une erreur de faire ça pour vous, oui, de l'inscrire dans un projet qui cache finalement beaucoup d'autres choses, la recherche sur les embryons, les dépistages anténataux, la filiation, plein d'autres questions et des enjeux très importants. C'était une erreur de lier les deux.
Je pense que c'était une triple erreur. Une erreur parce que ça a retardé l'adoption de la PMA pour toutes, parce que les lois bioéthiques, c'est un processus assez long. Parce que c'est des tas d'autres choses.
Des questions complexes pour lesquelles il faut un débat.
Des questions complexes, la recherche sur les embryons, l'accès aux origines, toute une série de sujets qui méritent beaucoup d'attention également et qui du coup ont été totalement dissimulés, cachés par les questions de PMA. C'était donc une erreur de ce point de vue. Une erreur pour la bioéthique, une erreur pour la PMA. Et enfin, il y a un problème de fond, c'est que la PMA, sur le plan bioéthique, est tranchée. Depuis 40 ans, nous savons que pratiquer la procréation médicalement assistée est acceptée par notre société, par le droit. En fait, il ne s'agissait pas de s'interroger sur une technique médicale, il s'agissait de s'interroger sur qui peut y accéder.
Sur le droit.
Sur l'extension. Et donc, en fait, on a fait de la PMA une question bioéthique alors que ce n'était qu'une question politique.
C'était un moyen de détourner l'attention du reste dont on a parlé, la recherche embryonnaire, les modifications des règles liées à la filiation.
Non, je ne crois pas à tant de perversité. Non, je pense simplement que c'était une manière de retarder ce débat qui encombrait Emmanuel Macron, qui le gênait comme il gênait les 2 premiers ministres successifs que nous avons eus. Et c'est une promesse de campagne qui pesait un peu au président, qui était un peu encombrante.
Je le disais, ça fait presque 2 ans effectivement que le texte est débattu, 2 ans de débat et presque 10 de promesses, puisque c'était une promesse de campagne, vous venez de le dire, d'Emmanuel Macron en 2017. Et avant lui, François Hollande et vous, lorsque vous étiez ministre des Familles, vous n'étiez pas engagé, mais avez clairement dit que vous étiez favorable à cet élargissement de la PMA à toutes les femmes. Pourquoi, Laurence Rossignol, sous François Hollande, vous n'avez pas su tenir cette presque promesse ?
Mais parce que ce n'était pas dans le programme du candidat François Hollande. Ce qu'il y avait dans le programme de François Hollande, c'était le mariage pour tous, qui a été fait d'ailleurs très rapidement.
Dès 2014, vous avez dit que vous étiez favorable à la PMA pour toutes les femmes. Moi, ça a laissé 3 ans pour le faire.
Oui, j'ai dit que j'étais favorable, mais François Hollande ne se considérait pas, sur la PMA pour toutes, engagé par le contrat qu'il avait passé avec les Français. Ce n'était pas dans son programme de 2012. Donc, on voit bien que la PMA pour toutes, c'est un sujet qui est très emblématique, que le camp conservateur, en particulier autour de la manif pour tous et de milieux très réactionnaires, tétanise les politiques avec ce sujet.
Il y aura des manifestations d'ailleurs encore ce soir et demain aux abords du Palais Bourbon.
Oui, mais enfin, les manifestations d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec celles qu'on a connues pour la Manif pour tous, parce que d'un certain point de vue, ceux qui sont hostiles à ces avancées de société ont perdu, parce qu'ils ont perdu dans l'opinion. Et on voit que sur les sujets de société, aujourd'hui, Emmanuel Macron est quand même très, très prudent, pour ne pas dire timoré. Et j'en vois trois. Quand même, qui sont où il y a un décalage entre ce que veut le président de la République, ce qu'il ne fait pas, d'une part, et ce que l'opinion veut. La PMA pour toutes, pas un bébé ne naîtra de PMA pour toutes dans le quinquennat, avant la fin du quinquennat. Et j'espère qu'il y aura des femmes enceintes, c'est même pas garanti, parce qu'il y a les textes d'application, etc. Je vois un autre sujet qui est l'allongement des délais d'IVG. La majorité parlementaire le veut, ça a été voté à l'Assemblée, le gouvernement bloque, résiste, ne veut pas allonger de 2 semaines les délais d'IVG. Et le troisième sujet, c'est la fin de vie, qui a été là encore discutée au Sénat. On sait qu'il y a de nombreux parlementaires qui ont voté, qui ont signé un texte demandant au gouvernement d'inscrire et d'avancer sur la fin de vie. Et le gouvernement bloque. En fait, je trouve que ce gouvernement, sur les questions de société, s'avère être assez conservateur, voire même un peu réactionnaire.
Ce sont en tout cas des questions qui soulèvent des débats. Et on le disait, les débats s'annoncent encore une fois assez animés ce soir à l'Assemblée. Il y a plusieurs milliers d'amendements qui ont été déposés, notamment par les parlementaires de droite. Avec ces questions, est-ce que c'est vraiment la priorité du moment, demandent certains, avec la crise sanitaire, des textes régaliens ou de sécurité qui sont attendus en nombre, une économie à relever aussi. Qu'est-ce que vous répondez à cette question?
La question, c'est est-ce que c'est vraiment la priorité du moment pour ceux qui déposent des milliers d'amendements pour bloquer le texte et empêcher le débat parlementaire d'aboutir? C'est à eux qu'il faut poser cette question. Est-ce que bloquer la PMA pour toutes est la priorité du moment? Sur un sujet sur lequel l'ensemble des enquêtes d'opinion que nous avons indiquent très clairement que les Français y sont favorables, c'est un engagement, le Parlement, l'Assemblée nationale a déjà voté. À quoi ça rime de continuer pour les opposants?
C'est de l'obstruction parlementaire pour vous?
Oui, c'est de la tentative d'obstruction parlementaire. Ça se finira par l'adoption du texte. C'est juste du temps perdu. Mais surtout, je suis très étonnée de cette droite très, très réactionnaire, très conservatrice, que je vois un peu à l'Assemblée, davantage au Sénat, et qui est en décalage avec ses propres électeurs. Les électeurs de droite ne sont pas sur ces positions radicalement anti-progrès de société, que ce soit
du
sur...
Du moins pas tous.
Oui, ils s'adressent à une toute petite partie de leur propre électorat, à la frange la plus conservatrice de leur propre électorat. Mais ils sont en décalage total avec la société. Ça se fera, comme le mariage pour tous s'est fait, et ça se fera malgré eux, parce que la société le veut.
D'un mot, Laurence Rossignol, vous ne croyez pas à ce que dit Olivier Véran, un premier bébé né par PMA avant la fin du quinquennat, c'est possible? La mesure doit être adoptée définitivement, on espère, d'ici la fin de la semaine. Après, il y a les décrets d'application. Vous ne croyez pas à un premier bébé né par PMA avant l'été prochain?
Après les décrets d'application, il y a la mise en place des nouvelles procédures dans les sécos, enfin, dans tout l'aspect médical.
Ce sont des parcours
assez longs.
Et puis
après, si vous voulez, malheureusement, la PMA, c'est rare que ça marche la première, enfin, tout
la
de suite.
Du premier coup.
Donc, moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura une femme, au moins une femme enceinte avant la fin du quinquennat.
On suivra ça et on suivra donc ces débats qui recommencent aujourd'hui sur ce projet de loi bioéthique et cette mesure phare, l'ouverture de la procréation médicale assistée à toutes les femmes en couple ou célibataires. Merci beaucoup Laurence Rossignol, ancienne ministre des Familles et sénatrice PS de l'Oise, d'avoir été notre invitée ce matin. Bonne journée.
Europe 1.
Il est 6h47, à suivre l'innovation du jour avec Anissa Mbida. À tout de suite. À 6h10, l'heure de l'innovation du jour, avec vous Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
Bonjour Théo Malval.
Et votre innovation ce matin va faire rêver plus d'un cycliste en ville. Vous avez trouvé un vélo qui protège des collisions en anticipant les trajectoires des autres véhicules. Alors petit bonus, il va même jusqu'à klaxonner ceux qui conduisent mal, j'adore.
Exactement, puis c'est un gros klaxon de camion pour que l'automobiliste se rende bien compte, soit qu'il passe trop près, ouais. soit qu'il y a quelqu'un dans son angle mort, ou tout simplement qu'il y a un cycliste devant lui et qu'il ne l'a pas vu. Et pour ça, le vélo est équipé de capteurs, de radars. Ça lui permet d'analyser les vitesses et les trajectoires de tous les véhicules qui seraient à une trentaine de mètres à la ronde. Mmh. Et si l'algorithme détermine qu'un crash est imminent, bip bip, il donne un coup de klaxon pour réveiller tous ceux qui seraient un petit peu trop distraits.
Ça va plaire aux citadins. Alors pourquoi un klaxon et pas une alarme pour le cycliste ou carrément un évitement automatique?
Parce que sur un vélo, c'est beaucoup plus compliqué. S'il freine ou s'il tourne sans prévenir, on peut être déséquilibré, on peut se casser la figure.
Et on n'a pas de carrosserie.
Non, on se fait tout de suite mal. Même chose pour l'alarme, s'il faut un temps de réaction réaction assez rapide et pour pouvoir répliquer un problème qu'on a vu sur la route. Alors que le klaxon, bah, tout le monde connaît. Si un automobiliste commence une manœuvre et qu'il entend un klaxon, eh bien machinalement, il va s'arrêter, il va donner un coup de frein. C'est comme un réflexe pour lui. Donc, c'est une approche très différente de ce qui se faisait jusqu'aujourd'hui. On cherchait plutôt à alerter le cycliste. Et bah, là, l'idée, c'est de s'adresser directement aux automobilistes pour qu'ils remarquent davantage tous ceux qui sont sur deux roues.
Et alors, ça existe déjà ? On peut l'acheter ou pas encore ?
Alors, pas encore. Ça va arriver bientôt. C'est un prototype qui vient juste d'être présenté par les ingénieurs de l'Université du Minnesota. Et ils sont en discussion avec des équipementiers pour vendre la technologie sous licence. Le seul problème, c'est que ça coûtera un peu cher, autour de 500 euros. Mais au moins, on ne pourra plus être ignoré par les automobilistes.
Avec un klaxon de camion, donc, si je vous ai bien suivi, pour ce vélo intelligent. Merci Anis et Mbida, votre innovation du jour. On vous retrouve demain. 6h52, ils sont nos yeux et nos oreilles sur tous les continents. Les correspondants d'Europe 1 nous attendent pour votre revue de presse internationale. Et on commence aux États-Unis ce matin avec vous, Alexis Guilleux. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait la une à New York ?
Eh bien, une tribune dans le Washington Post signée Joe Biden. Il y détaille les objectifs de sa tournée cette semaine en Europe. Le premier voyage à l'étranger de son mandat. Dans cette période d'incertitude, ce déplacement a pour but de rallier l'Amérique aux démocraties du monde, écrit le président américain. La sécurité sanitaire et la reprise économique mondiale seront au cœur de la réunion du G7 au Royaume-Uni. Joe Biden y voit également une occasion de réaliser des progrès ambitieux pour enrayer la crise climatique. À Bruxelles, le président américain promet de réitérer l'engagement inébranlable de Washington envers ses alliés de l'OTAN. Avec l'Union européenne, il veillera à ce que les règles commerciales et technologiques du 21e siècle ne soient pas établies par la Chine. Ce déplacement se terminera par un tête-à-tête avec Vladimir Poutine à Genève. Les États-Unis ne cherchent pas le conflit, insiste Joe Biden, mais il y aura des conséquences pour ceux qui violent la souveraineté américaine.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Direction maintenant l'Italie, où l'on part retrouver Blandine Hugonnet. Bonjour Blandine.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait la une chez vous ?
Eh bien, c'est la polémique sur le retour des bateaux de croisière à Venise. Pour la première fois depuis un an et demi, raconte le Corriere, un navire de près de 300 mètres de long a de nouveau frôlé le bassin de la place Saint-Marc ce week-end. De quoi réveiller le débat sur le passage de ces géants des mers à quelques mètres des monuments historiques de la cité des Doges, explique la Repubblica. Résultat, la reprise des croisières se fait entre applaudissements et sifflets, selon le Quotidiano. Après une longue pause à cause de la pandémie, les partisans saluent une reprise bienvenue pour le tourisme et l'économie. Le port fait travailler 1700 employés. Mais pour les opposants, poursuit il fato, ces monstres des mers menacent le patrimoine et polluent l'écosystème vénitien. Ce qui les énerve le plus, écrit Open, c'est la promesse non tenue du gouvernement. Une loi votée le mois dernier interdit le passage de ces navires haut comme des immeubles à Venise. Mais pour beaucoup, c'est du pipeau, dénonce il Matino. Il faudra attendre encore des années avant qu'une route alternative soit créée en dehors de la lagune vénitienne.
Blandine Hugonnet, correspondante Europe 1 en Italie. On termine ce tour du monde en Chine avec vous, Sébastien Lebelzig. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait les grands titres à Pékin ?
À la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, un phénomène de société qui défraie la chronique, le mohu, que l'on pourrait traduire par « toucher le poisson », c'est-à-dire obtenir son salaire sans rien faire. C'est le magazine Sixstone qui détaille cette nouvelle mode où l'on se filme les bras ballants ou en train de jouer aux jeux vidéo en cachette au bureau. Une génération de paresseux et de pique-assiettes, hein, c'est le cri de colère en réaction du Global Times. Le quotidien communiste critique ces jeunes décadents dont le plus gros défi est de voler le plus de papier toilette possible au bureau. Le journal Stone explique que c'est en réaction à une autre tendance, celle-là imposée par les entreprises, le 9-9-6, c'est-à-dire travailler de 9h à 21h, 6 jours par semaine, impensable pour des jeunes qui estiment être exploités. Une vraie révolution dans les mentalités chinoises.
La révolte de la jeunesse chinoise. Merci Sébastien Lebelzig, Europe 1 à Pékin, votre fenêtre sur le monde avec nos correspondants, c'est tous les matins, juste avant 7h.
Europe 1.
7h-5, la météo et le journal arrivent dans quelques secondes et Sébastien Krebs pour le 7-9 cette semaine. À tout de suite. 6h58, bon réveil. Merci de nous avoir suivis depuis 5h et vous retrouvez Sébastien Krebs pour vous informer pour le 7-9 cette semaine. Bonjour Sébastien.
Bonjour Théo Manvol, merci d'avoir réveillé les auditeurs d'Europe 1 depuis 5h ce matin. À demain. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un excellent week-end plein de soleil. Ravi de vous accompagner pour le 7-9. Tiens non, la semaine démarre et on écoute le monde changer. We are the people. Et on va surtout regarder l'Europe ce matin, l'Europe qui va vibrer pendant un mois de football. We are the people, ça c'est l'hymne de l'Euro, l'Euro qui démarre vendredi et qui commence dès ce matin sur Europe 1 avec un invité exceptionnel. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, l'équipe de France, grande favorite, écoutez ce qu'il en dit.
Probablement. logiquement. C'est le statut qui veut ça aussi, ou favori ou candidat à ce titre de champion d'Europe. On a envie de ça, c'est notre ambition, même s'il y aura des étapes à passer avant de se voir à Wembley.
On a envie de ça, Didier Deschamps dans le tête-à-tête à 7h40 et à 8h30, votre nouveau rendez-vous, le journal de l'Euro avec Jean-François Pérès. L'Europe, il en sera aussi question. Avec Michel Barnier, invité politique d'Europe 1 ce matin à 8h15. Michel Barnier, ancien négociateur du Brexit, il sera face à Sonia Mabrouk. Bonjour Laurent Cabrol.
Bonjour Sébastien, rebonjour à tous.
La chaleur, le soleil, ça va continuer ?
Chaleur et soleil, bien, oui. Tout ce type de temps va continuer pratiquement toute la semaine. Il fera même très chaud en fin de semaine. Alors ce matin, tenez, quelques températures pour ceux qui n'ont pas encore mis leur nez dehors. 8 à Cambrai, 11 à Rennes, 12 à Brest, 14 en banlieue parisienne, 15 à Nancy et Bordeaux, Paris-Ville et Besançon, la même température, 15 degrés, 16 à Strasbourg, 17 à Lyon, 18 à Marseille. La couleur du ciel, ma foi, on va attendre un petit peu si on habite les côtes de la Manche, car nous avons pas mal de brouillard, mais ces brouillards vont vite s'effacer. On va un peu s'inquiéter si on habite la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, la Bourgogne, l'Auvergne et la vallée du Rhône. Pourquoi ? Parce que les orages pourraient arriver dans le courant de l'après-midi. La zone orageuse n'a pas totalement quitté la France. Sur toutes les autres régions, Paris, Berry, le Val-de-Loire, le Nord, la Picardie, Poitou-Charentes, tout le Sud-Ouest, eh bien il fera beau. Il fera beau et il fait déjà beau. Température raisonnable entre 21 et 24 au nord et entre 25 et 29 au sud. Enfin, c'est une côte mal taillée parce que 25 dans le sud, Paris n'est pas dans le sud. Il fera 26. Bon, allez.
Très bien. À tout à l'heure, Laurent Cabrol.